franceinter.fr.
3D, le journal, c'est maintenant avec vous, Stéphane Paoli, bonjour.
Bonjour Dominique Delaroy, nous allons parler d'art parce que s'ouvre là, au début de semaine prochaine, le 18, à Bâle en Suisse, Art Basel, qui est la plus grande foire d'art contemporain au monde. Et on va voir à nouveau défiler des chiffres ahurissants, mais j'ai une bonne nouvelle pour ce 3D, l'art existe en dehors du marché.
3D. 3D, le journal de Stéphane Paoli. France Inter.
C'est Alice Berger et Pierre-Yves de Rolin qui pilotent le studio 621. C'est Catherine Rosier qui réalise l'émission. C'est Camille Blanès qui m'a aidé à la préparer. Et nous allons donc parler d'art avec vous. D'abord, Isabelle de Maison-Rouge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, vous êtes critique d'art, vous êtes commissaire d'exposition indépendante. Vous enseignez l'histoire de l'art à New York University, à Paris. Et vous avez signé de nombreux essais sur l'art. Par exemple, l'art contemporain au-delà des idées reçues aux éditions Le Cavalier Bleu. Et également, Salut l'artiste, idées reçues sur les artistes aussi au Cavalier Bleu. À vos côtés, deux artistes incroyablement, magnifiquement indépendants. Jean-Baptiste Farkas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste et prestataire de services. Vous avez créé IKEA Service. Alors, IKEA, il faut mettre un H à IKEA.
Oui,
c'est pas celui qu'on connaît habituellement.
Non.
Et vous avez également créé Glitch. Oui. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais attendez-vous à passer quelques minutes réjouissantes en cours de 3D. Et puis également, Jason Frinks, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes américain. Vous êtes fondateur et président de JZX. Pour Jason X, et là aussi, je veux dire qu'on va basculer dans des idées et des visions du monde qui sont formidablement intéressantes et très percutantes, je dois dire, et qui remettent en question bien des choses. Aurore Vincenti, bonjour.
Ave Stéphane.
Quel est le mot en préambule de 3D qui va nous donner un peu l'orientation de l'émission?
Un truc complètement original, ça va vous coller par terre. Le mot art.
Ah oui, en effet, faites très fort.
On a affaire à un des mots les plus importants de notre culture et de notre langue. Un mot aux racines et aux ramifications plurielles. Il est très général, très généreux. Bon, mais tenez, il vient du latin ars artis, qui désignait à l'origine la façon d'être et la façon d'agir. Bien vaste, hein. Ce mot, il s'est montré si amène qu'il est passé dans toutes les langues romanes, à l'exception du roumain. À tel point qu'on se demande souvent ce qu'il recouvre. Qu'est-ce que l'art? À partir de quand fait-on de l'art? Pourquoi, quand je sors la cuvette de mes toilettes dans la rue pour que les encombrants viennent la récupérer, je ne fais pas de l'art, alors que Duchamp, quand il nous colle son urinoir sous le nez, on tombe en pamoison? Et puis, autre question, où est la frontière entre l'art et l'artisanat? Bon, bref, hein, autant d'interrogations auxquelles les philosophes, les historiens se sont confrontés. Et autant vous dire que c'est pas moi qui vais révolutionner l'affaire. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est tirer des fils étymologiques pour comprendre pourquoi ce mot-là et pas un autre. Pour comprendre ce qu'il veut dire véritablement, quand on le prend un peu hors de tout contexte, de toute histoire. Un premier point, le mot latin ars artis, dont il est issu, est formé à partir de la racine armus. Armus, ça vous dit quelque chose?
Rien.
Mais si.
Non, rien.
Non, attendez, un
rien,
petit effort,
rien.
Armus en français. Mais si, allez-y, Stéphane, armus. Une arme, non?
Mais non, moi je déteste les armes.
Armus, c'est le bras, le haut du bras et l'épaule. En latin, on a eu l'anglais arm, qui dit bien le bras. Et nous, on a nos fameuses armes qu'on tient à bout de bras. Donc déjà, on sait que dans le mot art, il y a un bras. Ce n'est pas rien. Posons-nous la question, pourquoi un bras? Je serais tentée de dire, pour ce qu'il y a au bout du bras, la main. Car la main prend, la main fabrique, la main exécute ce que lui dicte le cerveau. La main transforme et elle crée. Donc ça pose déjà que l'art se situe avant tout dans le faire. Pas tant l'objet fini, mais dans le faire. Ce qui justifie assez bien le fait que la cuvette de mes toilettes, puisque je ne comptais pas faire œuvre ou faire art, soit reléguée au rang de déchet. En outre, cela signifie que l'art prend sa source dans le corps. Il est incarné. C'est le geste, le mouvement du bras ou du corps qui fait art. Très bien, jusque-là, mais le corps seul ne fait pas art. Hein. La main, je le disais tout à l'heure, est guidée par autre chose qu'elle-même, une pensée, une intention, une intuition. Enfin, en tout cas, elle ne bouge pas toute seule. Et surtout, elle n'est pas dissociable du reste de ce qui constitue un être humain. Et cela, on le retrouve aussi à la racine du mot. Quand on remonte vers un vieux radical indo-européen, qu'on retrouve dans le grec Arariskein, ouais, Arariskein, c'est pas simple à prononcer, mais c'est bien ça.
On dirait du basque.
Vous avez des origines ?
Aussi.
Arariskein signifie « arranger ». La notion d'ordre vient donc s'agréger à l'étymologie du mot « art ». Donc pour résumer, on peut faire le lien entre ces idées essentielles, celles d'une activité humaine où la main arrange, ordonne, met en scène et offre une vision, non pas d'une organisation unique du monde, mais d'un ordre qui est celui de l'artiste. Et cette vision, elle franchit les limites de sa subjectivité, de son individualité à lui, l'artiste, puisqu'elle nous parvient. Mais alors, si on en revient à cette racine « armus » qui dit « le bras » et qui est dans le mot « art », on peut se demander ce qu'on a au bout du bras. Un pinceau, un crayon ou un tiroir-caisse ?
Ah, belle et bonne question. On va prolonger un tout petit peu parce que ce que vous dites est très intéressant, et notamment de cette importance du bras, de la main et de l'intention. Et l'artiste, il est au milieu d'un paysage qui est en recomposition permanente, qui est aussi celui de l'actualité. Et au fond, au milieu de ce grand mouvement, quel est le rôle de l'artiste ? C'est une question qu'a posée à sa façon, et si bonne façon décidément, Caroline Cartier.
Quel est le rôle de l'artiste ? Quel est le rôle de l'artiste, s'il vous plaît ? C'est important, tout le monde attend.
Son regard est soutenu, ses paupières bougent régulièrement.
Elle relève de l'exigence de toute chose aujourd'hui d'être vue, d'être plébiscitée par le regard.
C'est une courte vidéo où l'on découvre Vincent Lambert sur son lit d'hôpital.
Non seulement tout être, mais toute chose veut aujourd'hui être photographiée.
Une vidéo militante réalisée par ceux qui se battent pour le maintien en vie du tétraplégique.
Is it art?
Quand un miroir se regarde dans la glace, qu'est-ce qu'il voit?
Is it art? What is art?
On est vraiment dans quelque chose qui est du domaine de l'obscénité, où on expose comme ça au vu de tout le monde des images qui en plus sont des images de manipulation, puisque elle laisse croire que Vincent Lambert serait en capacité à réagir à des stimulations extérieures, ce qui est scientifiquement tout à fait impossible.
L'instant social, l'instant mondain.
Is it art?
Quel est le rôle de l'artiste, s'il vous plaît?
L'instant historique.
Quel est le rôle de l'artiste ? Quel est le rôle de l'artiste, s'il vous plaît ?
It's art.
Alors, il est légitime d'essayer de retrouver une inspiration dans l'actualité.
It's art.
La soirée avait commencé par cette occupation. Une caserne de pompiers désaffectée près de la gare du Nord dans le 10e arrondissement de Paris.
Art.
Investie par les migrants et leur soutien.
Vous croyez photographier une scène par plaisir ? Mais en fait, c'est elle qui veut être photographe.
De l'art.
Vous n'êtes que le figurant de sa mise en scène.
Contemporary art.
À l'extérieur, le climat était très tendu entre les militants qui les soutiennent et les forces de l'ordre.
I'm not speak about myself. I'm speak about the ladies. I'm speak about the child. I'm speak about the older.
It's contemporary art.
C'est pourquoi, vu dans la perspective de l'art, il peut être bien décevant, mais vu comme fragment, comme réfraction du monde, de notre monde, il est d'une évidence parfaite.
Quel est le rôle de l'artiste ? Quel est le rôle de l'artiste, s'il vous plaît ? Quel est le rôle de l'artiste ? C'est important, tout le monde attend.
Art.
C'est une bonne question, Isabelle de Maison-Rouge. Quel est le rôle de l'artiste ? Est-ce que le rôle de l'artiste ne serait pas, au fond, d'être le plus souvent possible, subversif.
C'est une bonne question et votre réponse est intéressante. Oui, effectivement, le côté subversif est essentiel, je pense, dans la démarche de l'artiste, puisqu'il me semble que son rôle, c'est peut-être d'amener à voir notre monde dans lequel nous vivons au quotidien, mais peut-être différemment, sous un autre angle, parfois plus critique aussi. Et en tout cas, je pense que
on va être gâté aujourd'hui.
Oui. Et notamment, peut-être le monde dans lequel on vit, on se rend compte que maintenant, c'est l'argent qui domine. Et notamment dans le monde de l'art également. Donc, je pense que poser ces questions est essentiel.
Avant de rentrer dans ces questions qui sont évidemment absolument nécessaires, et pas seulement dans le champ de l'art,
non.
C'est la grande force de l'art, c'est d'éclairer aussi tout le reste.
D'aller bien au-delà.
Un mot sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Art Basel, la plus grande foire contemporaine au monde.
Oui.
c'est oui. quoi ? C'est une foire où c'est désormais le plus grand marché spéculatif du monde ?
Spéculatif, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qui tourne autour du marché de l'art est extrêmement complexe, parce que d'une part, l'art contemporain est très à la mode. Vous l'avez constaté depuis une bonne vingtaine d'années, on en parle tout le temps, dans tous les journaux, même des journaux grand public qui ne concernent pas l'art, alors qu'auparavant ça n'était pas le cas. Mais de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle véritablement d'art ou est-ce qu'on parle de chiffres ? Est-ce qu'on donne des chiffres mirobolants qui concernent le marché de l'art ?
Alors moi, j'ai, en préparant cette émission, j'ai regardé et je suis tombé surtout sur des chiffres.
Oui.
Alors, ceux qui me sont venus à la lecture, en 10 ans, 300% d'augmentation du marché. Aux États-Unis, pour l'année dernière, une hausse de 26% du marché. Mm. Marché de l'art, oxymore ou pas ?
Oxymore, certainement, oui. Mais en même temps, ça regroupe une entité beaucoup plus large qu'on ne le pense. C'est-à-dire, en réalité, il n'existe pas un marché de l'art, mais des marchés de l'art. Et celui dont on parle dans les journaux ne concerne qu'une minuscule partie de l'iceberg, et tout le reste est immergé et donc invisible. C'est-à-dire que ce dont on entend parler, c'est le méga marché qui concerne des méga artistes qui sont devenus des stars, qui concerne des méga galeries qui sont devenues des succursales de luxe et qui s'étendent à travers le monde, qui concerne des méga collectionneurs qui ont des fortunes colossales et qui concerne des méga maisons de vente qui sont extrêmement restreintes dans le monde. Or, la réalité ne se situe pas là.
Qu'est-ce que c'est la réalité aujourd'hui ?
La réalité, ce sont des artistes qui créent au quotidien et qui, économiquement, n'ont rien à voir avec ces stars dont on entend parler partout. Et donc, ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à survivre. On peut parler plutôt d'une paupérisation de l'artiste. Et donc, ça revient à la question du rôle de l'artiste, de sa position dans la société. On a tendance à se rendre compte que, bien souvent, l'artiste est finalement le plus maltraité dans cette affaire.
Mais c'est étonnant, parce que, alors, à vous écouter, mais d'ailleurs, il suffit de regarder autour de soi pour le comprendre,
oui.
Dans cette association de deux mots, marché de l'art, le marché est en train de, au fond, d'une certaine façon, de tuer l'art.
Exactement.
L'idée même de ce qu'est l'art.
Ben, en tout cas, nous sommes dans un phénomène très étrange, c'est que le marché de l'art parle plus fort que l'art. C'est-à-dire que la valeur de l'art, à quoi peut-on l'appliquer ? Ben, il y a avant tout la valeur marchande qui reste essentielle à l'heure actuelle, alors que dans l'art, a priori, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la valeur esthétique, la valeur artistique, la valeur qui consiste à questionner justement le monde. Actuellement, c'est le marché qui parle plus fort.
Mais c'est marrant parce que ça fait... Enfin, c'est marrant, pardon pour cette facilité de langage, mais c'est singulier tout de même. Aurore faisait référence à Duchamp tout à l'heure, à l'urinoir de Duchamp. Que disait Duchamp ? Il disait, l'art, bah, c'est un produit comme les haricots. Et on achète de l'art comme on achète des spaghettis. Où est la réalité entre ce que dit Duchamp et ce que nous connaissons et vivons aujourd'hui ?
Duchamp, lui, il a le mérite de poser toutes les questions qui vont bouleverser complètement l'approche qu'on va pouvoir avoir de l'art. Duchamp, ça fait quand même un siècle qu'il a posé ces questions. Et notamment, il s'interrogeait à une question qui est très pertinente encore à l'heure actuelle, c'est peut-on avoir des œuvres qui ne soient pas d'art ? Et donc, lui, déjà, il dissociait complètement le marché d'un côté et la production artistique de l'autre.
Et il joue, si je me souviens bien, sur cette homonymie entre art, A-R-H-E, et art, A-R-T.
Bien sûr.
Je crois qu'il disait, art est art, ce que merde est à merdre.
Exactement. Et oui.
Et merdre, c'est uberois, tout de même.
Tout à...
Donc, ce qui montre à quel point on bascule dans une dimension délirante. Quoi.
Bien sûr. Mais il s'intéressait énormément, justement, à cette notion de financiarisation du monde de l'art. Mais ça remonte déjà à un siècle. Et il considérait que les artistes qui faisaient des œuvres faciles à vendre, au lieu de signer des tableaux, ils signaient des chèques. Donc déjà, il pointait de manière très critique cette approche-là. Mais il me semble qu'à l'heure actuelle, ça a encore plus de pertinence. Parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, le marché de l'art est beaucoup plus important. Et on est rentré dans une période de globalisation, ça n'a échappé à personne. Et donc maintenant, ça atteint des sphères qui échappent complètement au commun des mortels. Et ça touche justement ce que je vous disais, cette classe de population qui touche au méga et qui n'est pas du tout le reste de la population.
Mais alors cette mondialisation que vous évoquez, certains parlent même cette globalisation qui est facteur de normalisation. Ces artistes qui ne sont pas la partie visible de l'iceberg, mais ceux qui sont en dessous, qui sont les porteurs de l'art. Est-ce que l'espérance n'est pas là? Ne sont pas eux qui sont en train peut-être de commencer à démonter le système avant que d'ailleurs celui-ci ne tombe tout seul? Parce que puisqu'on parle de l'économie et du turbo-capitalisme, il y a un moment donné où à force d'avoir tiré sur l'élastique, il va casser. Mm. C'est pas de savoir s'il va casser, c'est quand va-t-il casser. Mais peut-être l'ont-ils déjà dit, eux, à leur façon, à travers leurs œuvres.
Exactement. Déjà, depuis les années 60, il y a quantité d'artistes qui se sont posés sur cette question, cette relation entre art et économie, art et entreprise. Et il y a ce qu'on a vu apparaître des artistes qu'on appelle entreprise artiste, qui est là aussi une sorte d'oxymore, mais très pertinente.
Il y a quasiment deux représentants d'entreprise artiste. Oui, on va voir ça très près avec eux.
Exactement. Et il y a pas mal de chercheurs qui se sont intéressés à cela, mais c'est pas encore arrivé de manière très très ouverte. Enfin, il y a eu quand même des expositions sur le thème. Il y a une équipe qui cherche autour de Paris 1, autour de art et flux. Donc toutes ces convergences-là entre art et économie. Et donc, on a mis à jour ces entreprises artistes qui sont des gens qui, effectivement, interviennent sur le champ à la fois de l'art et à la fois de l'économie, qui brouillent les pistes, qui détruisent les frontières qui existent entre ces deux mondes-là et qui vont poser, effectivement, des questions très pertinentes dans ce champ et qui vont essayer de déconstruire ce système, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut apporter d'ironique là-dedans pour attirer l'attention.
Mais il y a quelque chose de visible déjà dans leur façon de procéder, qui est la dématérialisation, l'immatérialité de ce qu'ils proposent, presque en opposition précisément au marché, à ce monde dans lequel on ne cesse de nous proposer toutes sortes d'objets, en recomposition permanente d'ailleurs, qui l'obsolescence jouant son rôle dans tous ces phénomènes. L'immatérialité qui surgit tout à coup à travers eux.
Exactement. Alors d'abord, c'est parce que ce sont des artistes qui sont en lien et en contact avec la société dans laquelle nous évoluons. Et donc effectivement, l'immatériel a pris une place prépondérante. Mais aussi parce que justement, ils veulent aller contre cette fétichisation de l'objet d'art qui a perdu toute son aura. Et donc ils vont produire des objets qui sont plutôt des produits d'art qui vont pouvoir être vendus en très grand nombre ou des services, comme on va le voir tout à l'heure. Essayer de faire disparaître cette notion d'objet d'art qui est complètement sacralisée et qui, pour revenir à cette population qui achète des œuvres clinquantes et brillantes et qu'on repère à 50 km, là, on n'est plus du tout dans ce registre. On est effectivement dans plutôt une critique et une approche plus acerbe.
Il y a un mot, Aurore, qui m'a frappé en préparant l'émission. Je ne m'attendais pas à le trouver. Qui est un mot anglais s'agissant de l'art, qui est branding. Qu'est-ce que ça veut dire branding?
Moi, ça me fait terriblement penser à cette marque que l'on fait au fer rouge. Et ça m'a fait penser aux esclaves, en fait, branding. C'est ça, hein, c'est vraiment une marque.
Mais ça veut dire quoi, branding?
To brand.
To brand, c'est quoi? C'est marqué.
Ça veut dire marqué au fer, littéralement. Alors après, c'est l'idée de la marque, hein, de trademark, de la marque qui est à poser sur une chose pour la vendre.
Mais qu'est-ce que ça vient faire, Isabelle de Maison Rouge, dans le débat sur l'art, le branding?
Alors, justement, ce débat, il s'est ouvert sur un champ qui est beaucoup plus vaste, dont on parlait tout à l'heure, cette idée de financiarisation qui a envahi toutes les sphères de la société. Et donc, à ce moment-là, l'artiste devient une marque comme une autre. Ses œuvres sont des produits marchands excessivement importants. Et on tombe dans ce qu'on pourrait appeler l'arketing, c'est-à-dire que on s'aperçoit que les grandes maisons de luxe, par exemple, qui sont devenues des mécènes très importants, vont utiliser les techniques habituelles appliquées à l'industrie du luxe, et notamment le snob effect, c'est-à-dire qui fait que plus un objet est cher et plus il va être attirant et attractif.
Et je comprends mieux ce que vient de nous dire Aurore à propos de l'esclave. Il y a quelque temps, nous étions à Pointe-à-Pitre pour l'inauguration d'un bâtiment qui commémore l'histoire de l'esclavage. Le code noir, c'est ce qui fait passer un individu de sujet à objet.
Bien meuble.
C'est exactement ce dont vous parlez à l'instant.
Exactement.
L'artiste passe tout à coup de sujet à objet.
Mais on nous le demande aussi dans les médias, hein, de faire du personal branding, c'est-à-dire se vendre, aller se vendre, vendre une image. Il faudrait qu'on ait notre photo partout, qu'on soit très actif sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on nous demande de faire à tous. Hein, maintenant,
on demande la même chose aux artistes
monde,
aussi.
Les artistes.
C'est donc au fond la marchandisation absolue de tout.
Oui, de tout. De
Mais
tout.
Est-ce que c'est un phénomène, comment vous dire, de révolte, au fond, même s'ils sont extraordinairement plein de finesse et d'humour. Mais j'imagine qu'il y a aussi un peu de colère dans
oui.
tout ça.
Oui, je pense qu'on pourrait associer ça à une notion de poche de résistance. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont agir justement à la limite entre l'art et l'économie et qui veulent soulever toutes sortes de questions, mais essentielles. Je pense à un projet très important comme Ludovic Chemarin Copyright. Ludovic Chemarin Copyright, c'est passionnant parce que c'est un artiste qui a produit une œuvre intéressante, qui fonctionnait véritablement sur le système de l'économie de l'art, qui était exposé et qui, en 2005, a décidé de cesser son activité. Ça, c'est déjà très intéressant parce que dans notre société, on n'aime pas l'échec. Un artiste qui dit « j'arrête d'être artiste », c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Lui, non seulement il cesse son activité et il le fait savoir. Et en 2011, cet artiste va être racheté par deux autres artistes. Alors quand je dis racheté, évidemment, on n'est pas dans le monde de l'esclavage.
Hein. Ouais.
Mais racheté sur le même phénomène que ce qui se passe effectivement dans le domaine industriel. C'est-à-dire qu'on rachète le nom d'une marque. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Ludovic Chemarin est allé déposer son nom à l'INPI, donc l'INPI qui reçoit les noms de marques. Il a rajouté le sigle copyright. Et cette marque a été rachetée par deux artistes.
Mais ça veut dire qu'il est quand même co-créateur de ce concept-là, Chemarin. Il est partie prenante, quand même.
Disons qu'il l'a accepté. Il a accepté de jouer le jeu.
Voilà.
Et donc, les deux artistes qui ont racheté ce nom, Ludovic Chemarin copyright, maintenant, c'est devenu un seul et même non une entité, comme un nom d'entreprise, vont pouvoir exploiter les œuvres anciennes, fabriquer de nouvelles œuvres, les présenter selon les codes traditionnels de l'exposition, et en même temps, ils vont intégrer un processus à l'intérieur de leur monstration, qui sont des textes théoriques, qui sont les contrats de cession du droit patrimonial, etc. Et donc, vous voyez que l'œuvre va devenir une sorte de phénomène qui se transforme, qui est un processus.
Intéressant tout de même. Quelques mots peut-être, Aurore, au passage ?
Oui, il y en a
Lequel?
Un qui me frappe violemment. Non, je le trouve bon en fait, c'est le mot valeur. La valeur de l'art. Alors il est double ce mot, parce qu'à l'origine, la valeur, c'est une qualité. Ça vient du latin valere. Valere, c'est être bien portant, être fort. Donc c'est une qualité physique. Et puis ensuite, ça devient une qualité morale. Quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un de qualité, hein. Quelqu'un de valeureux. Et puis, c'est vers le XIIIe siècle qu'on a basculé vers une définition plus économique de la question, où la valeur devient le caractère mesurable d'une chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité, d'ailleurs peut-être qu'elle existe encore, pour cette carte de crédit, enfin pour cette banque, il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Eurocard, Mastercard, pour ne pas la citer, qui avait fait un tabac. Hein, elle avait très bien fonctionné, cette publicité. Et c'est drôle parce que finalement, alors cette publicité joue justement sur cette idée de valeur des choses, mais ce qui a le plus de valeur, c'est ce qui est inestimable, ce qui n'a pas de prix. Donc, de la très grande valeur à l'inestimable, où est la frontière, hein ?
Ah ben là, vous venez de m'ouvrir la porte en grand pour Jean-Baptiste Farkast, artiste et prestataire de services. Parce que vous avez, c'est pas un slogan, mais quelque chose qui résume assez bien votre état d'esprit. Vous dites « beaucoup plus de moins ».
Oui, oui, oui. Cette phrase vient d'un constat que j'ai fait il y a un certain nombre d'années en me disant que il y avait déjà beaucoup de choses en circulation dans le monde et que peut-être que l'action de l'artiste pouvait être en grande partie de retirer...
De soustraire. C'est le verbe que vous utilisez.
Exactement.
Soustraire.
Qui est très intéressant en relation
parce
avec subvertir aussi.
Oui.
Soustraire et subvertir.
Mais surtout parce que naturellement, le geste de l'artiste, on le met du côté de l'addition. Ça veut dire on voit l'artiste comme produisant, vous parliez du bras tout à l'heure, quelque chose, donc il amène quelque chose sur la table, paf, il pose finalement. Et moi, j'ai imaginé l'artiste au contraire qui viendrait pour retirer, enlever. Soustraire, enlever, voilà.
C'est beau. Parce que, en plus, ça implique un changement de démarche. Au fond, jusqu'ici, on attendait de l'artiste qu'il montre, qu'il expose. Vous vous dites, arrêtons
non,
avec
non,
l'exposition.
Non, oui, absolument. Hein?
Mais
non,
qu'est-ce
non,
que
non.
vous proposez à la place?
D'agir, c'est ce que j'appelle opérer. Opérer dans la réalité quotidienne, c'est-à-dire de ne plus chercher à développer une pratique artistique dans la sphère de la visibilité de type galerie, exposition, etc., mais de plutôt imaginer que l'artiste pourrait opérer, comment dire, user des compétences de l'art dans la société dans laquelle il vit.
Dans la réalité quotidienne, au fond.
Voilà.
C'est-à-dire mettre l'art un peu à l'arrière-plan.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'art, au fond, enfin, pour moi, après, c'est mon point de vue, nous intéresse de moins en moins. Ça veut dire qu'il est, ce qui nous intéresse, il y a cette vraie vieille phrase de Filiou, mais c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est la vie qu'on vit est beaucoup plus intéressante que l'art. Et donc, il faut, avec les moyens de l'art, faire en sorte de rendre sa vie, disons, un peu plus attrayante, intéressante que ce qu'elle est, parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile.
Alors, c'est là que vous créez vos outils, et on va rentrer là-dedans en détail, parce que c'est vraiment jouissif. IKEA Service d'un côté, Glitch de l'autre.
Oui.
Assez différencié, d'ailleurs,
oui,
l'un
absolument.
Et l'autre. Hein. Commençons par IKEA Service.
Non, il était mort de rire toute la matinée.
Il a été témoin.
Non, mais je suis témoin.
c'est très bien.
IKEA Service, d'abord, vous l'écrivez avec un H dans
oui,
IKEA,
oui, oui.
Hein, pour
ah,
quand
oui.
même que les choses soient
mais
claires.
Mais parce hein. que j'avais peur des poursuites à l'époque. Je voulais, en fait, j'étais parti du modèle de Camprade. Peut-être je vous coupe la parole là.
Non, je vous en prie. Non, allez-y, on est pour
qui avait créé IKEA pour faire vite dans les années après-guerre, 45-50, dans ces eaux-là. Il avait créé IKEA sur le concept de donner une part à la personne, au client qui achetait le mobilier, la pièce de mobilier. Et j'avais transposé cette idée de Camprade dans l'art en disant, il faut que j'amène mon public, les gens qui viennent me voir, à avoir une action dans la fabrication de ce qu'ils souhaiteraient voir apparaître. Ça, c'était mes débuts.
Vous permettez que je donne un exemple?
Oui, absolument.
Ce qui m'a plutôt mis de bonne humeur ce matin. Je lis. Il s'agit d'un service, au fond, hein, que vous proposez. Chaque service se présente avec son mode d'emploi et des remarques sur sa réalisation. Ils invitent, par exemple, à rendre impraticable l'usage d'une partie d'un appartement en l'annulant avec du scotch ou en l'encombrant d'objets. Ils permettent à des personnes qui ne se connaissent pas d'intervertir les contenus d'étagères qui leur appartiennent. Donc vous mettez le bazar, quoi.
Oui, il faut que ce soit sanglant, enfin, comment dire. Il faut, et même ça va jamais assez loin. Jamais. C'est ça qui est décevant, au fond.
Et c'est manuel. Alors, vous avez publié un livre qui est un manuel de service.
Voilà, absolument.
Donc, avec une gamme de propositions.
Voilà, environ 80 qui ne sont pas que de moi. C'est un travail collaboratif, collectif. Et on a environ 80 scripts qui peuvent être activés par mes soins, par d'autres. Des gens peuvent le faire en ayant, comment dire, simplement connaissance des libellés. Donc chez eux.
Il y a des propositions, par exemple, si vous voulez bien nous détailler, j'en prends une au hasard, oui. Acheter cassé, par exemple.
Voilà, alors, acheter cassé, on l'a fait à Montréal il y a environ un an et demi. Il suffit d'aller dans un magasin avec pour y acheter quelque chose, et juste après l'avoir acquis, on détruit cette chose sur le lieu de son acquisition.
Vous le faites régulièrement chez IKEA?
Non, pas chez IKEA. Mais ça a donné des formes très différentes, la plus, disons, problématique étant acheter cassé chez un fleuriste, où là, ça connectait avec la question d'une œuvre d'art, parce que le fleuriste avait produit pour une certaine somme d'argent un bouquet qui a été détruit, donc suite après avoir été acheté. Donc là, on a eu un peu.
Alors, mais comment les gens réagissent-ils? Parce
c'est
que
question,
au fond, on est toujours dans cette confrontation entre celui qui fait et celui qui est témoin.
Oui,
et
oui.
Au fond, l'art, c'est au fond cette rencontre. Hein.
Voilà. Alors,
qu'est-ce qui se passe là?
Ce qui est particulier dans mon approche, c'est que les gens souvent ne sont pas au courant qu'une œuvre est en train de se réaliser. Ça veut dire que souvent, les gens qui sont témoins d'une action le sont sans le savoir. Voilà, c'est par exemple ralentir des buffets de vernissage d'exposition, donc qu'on a développé plusieurs fois. Donc les gens viennent pour boire,
oui.
qui est la grande question des vernissages,
oui.
mais les serveurs servent très mal, c'est-à-dire très lentement, très lentement. Et donc les gens se retrouvent finalement prisonniers de cette activation, sans le savoir, et commence à s'énerver. Et là, pour moi, on est dans un contexte.
C'est là où vous êtes vraiment un créateur, quoi, au fond.
Créateur, c'est un grand mot.
Ouais. Permissif, qu'est-ce que c'est que la proposition permissive?
Oui, ça c'est s'unir à ses aversions. Il y a des choses qu'on n'aime pas manger, boire ou faire. Et donc l'idée, c'est de, pendant un temps qu'on se donne, de s'y adonner. Mais à quelque chose a priori qu'on déteste.
Mais oui, mais ça c'est très intéressant au fond. Ah oui, c'est à la découverte de soi-même.
Et absolument.
C'est quasiment une démarche introspective aussi. Ah oui, pourquoi n'aime-t-on pas?
Mais beaucoup est de cet ordre-là. Oui, d'une forme de, disons, d'agrandissement, d'extension de son, de sa façon de s'appréhender soi-même, on pourrait le dire un peu comme ça. Donc en fait, il s'agit beaucoup d'agir sur le mental, sur la personnalité elle-même, beaucoup plus que sur l'exposition, parce que l'exposition, le problème c'est que l'exposition, on en a vu des centaines de milliers.
Donc, bien sûr.
On est beaucoup plus important que les expositions, quelque part, je veux dire, nous tous.
Mais j'en reviens au fond à la première question que je posais à Isabelle de Maison Rouge tout à l'heure. Votre philosophie de l'art, parce que nous sommes dans le champ de l'art, hein, c'est de perturber, c'est de contrarier au fond.
Ah oui, oui. Oui, oui, c'est de créer des situations limites où des discussions, ou en tout cas des problèmes vont émerger. Et de ce fait, l'idée est de générer des discussions intéressantes sur des points fondamentaux, par exemple acheter cassé. Pourquoi casser ce qu'on achète?
Acheter cassé, j'ai entendu un steak haché.
c'est presque.
Elle est très créative, hein, aussi, Aurore.
Mais le travail sur les mots aussi. Je travaille beaucoup, enfin, on travaille tous en fait beaucoup sur les mots aussi autour de cette table. C'est fondamental. L'emploi qu'on fait des mots.
Mais il y a une fonction politique dans ce que vous faites, au meilleur sens du mot politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on partage tous dans l'espace de la cité? C'est tout simplement passer de la spéculation à ce que vous appelez, vous, l'exécution. Et c'est plus du tout le même registre.
Non, non, non. Bon, alors ce que je fais valoir sur le plan professionnel, c'est l'idée d'un artiste qui se ferait payer pour son travail, et non, pour revenir un peu à votre discussion du début, et non pour la vente d'objets d'art. Mais en fait c'est difficile dans la relation aux institutions, etc., essayer d'être payé pour le travail qu'on fait et non pour un objet à vendre, c'est encore extrêmement difficile, et c'est une forme de combat. Alors là, je dirais qu'il y a aussi une position politique.
Je vous écoutais parce que j'ai reçu le mail d'un artiste, je suis en train de le chercher mais je vais le retrouver, qui s'est mis comme vous, délibérément en dehors du champ classique de l'art et du marché. Et il dit qu'il n'est pas reconnu en tant qu'artiste et que, par exemple, le ministère de la Culture ne l'aide en rien, qu'il ne reçoit aucune subvention de personne, parce qu'il n'est pas reconnu en tant qu'artiste. Il n'est pas rentré dans la règle du jeu.
C'est volontairement.
Mais oui.
Volontairement ou involontairement? D'après le mail que vous avez.
Lui dit qu'il s'est, il a voulu, comme vous, échapper à cette emprise du marché.
Parce que c'est très intéressant si c'est volontaire. Ça l'est moins. En fait, beaucoup de gens qui se plaignent du marché sont des gens qui n'ont pas réussi à y entrer.
Je vous lis, tenez. J'ai créé mon autre. Il s'appelle Hugues Follop. S'il nous entend, Hugues Follop.
On vend des plantes après par téléphone.
Je vous lis. J'ai créé, dites-vous, mon auto-entreprise d'artiste peintre, avec cette particularité de me présenter en tant qu'artiste libertaire. C'est-à-dire que je ne suis pas entré dans le système de vente par les galeries avec pignon sur rue. Par conséquent, le ministère de la Culture ne veut pas m'accorder de subvention, je ne suis pas officiellement considéré en tant qu'artiste par l'État.
Par le ministère de Culture qui nous disent qui est artiste ou pas.
Ben voilà, d'abord. Ça, Jason qui commence à montrer aussi qu'il est en rupture avec tout ça.
Ça pourrait être discuté. Il faudrait connaître les détails exactement de cette affaire pour pouvoir la traiter en direct.
Pour en revenir à ce que vous faites, Jean-Baptiste Farkas, on a vu les services que vous proposez. Oui. Il faudrait que vous nous disiez un mot de glitch aussi.
Oui, oui, oui.
Mais tout ça implique tout de même une forme de participation.
Oui, oui, absolument.
Toujours.
Oui,
c'est-à-dire
qu'il y a
cette relation intime entre l'artiste, le créateur que vous êtes, et nous.
Oui, tout à fait.
Mais alors, notre participation à nous, pour sortir et casser ce moule-là, quelle est-elle?
C'est la recherche d'une relation authentique, ça veut dire de relation de personne à personne, au travers de laquelle on va réussir à produire des choses qui vont nous intéresser. C'est aussi simple que ça. Ce qui, dans la configuration classique d'objets d'art, d'exposition, etc., n'est pas tellement réalisable. Ça veut dire que quand on vient voir une expo, on passe, finalement, c'est une consommation parmi d'autres. Alors là, je dirais que mon action, vraiment précisément, c'est l'idée qu'il faut aller au-delà de cette consommation, de ce phénomène de consommation, pour essayer de générer une rencontre authentique entre personnes qui vont produire, donc au travers d'un service délirant, comme ralentir, casser des objets, annuler une partie d'espace de son appartement ou de son lieu de travail, obscurcir l'espace dans lequel on travaille, etc. Enfin, il y a toute une gamme de comme
mais
ça.
Mais vous dites aussi une chose qui est intéressante, qui montre à quel point, au fond, vous créez un espace différent. Ce qui est important pour vous, c'est de ne pas identifier, je cite les mots que vous utilisez, ne pas identifier l'art.
Oui, on s'est beaucoup posé la question, est-ce de l'art ou pas ? Il me semble qu'aujourd'hui, donc en 2015, c'est vraiment une question qui n'a plus raison d'être, parce que, au fond, on s'en fout. Et que ce qui est intéressant, c'est de faire des choses intéressantes. Qu'importe que ce soit de l'art ou là, à chacun finalement de le définir comme art ou pas.
Et vous êtes quand même un personnage,
un phénomène,
vraiment singulier. Parmi vos comportements un peu hors normes, vous avez pratiqué la prodigalité, mais à un point invraisemblable. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans les magasins et vous avez décidé, c'était votre choix, de payer systématiquement deux fois le prix de ce qu'on vous offrait.
Oui, c'est un des services que je propose. Alors, la plupart des services que je propose ont été réalisés sur moi-même. C'est-à-dire que pour les tester, quelque part comme un créateur de produits ou de... Je les applique et j'ai appliqué celui-là pendant un certain temps et c'était abominable.
Mais vous vous êtes rendu très populaire, j'imagine, non?
Non, les gens, ce qui est drôle, c'est que par exemple, vous allez dans une boulangerie et vous payez la baguette de 40 à la place d'un 20, enfin un 5 ou de 10 à la place d'un 5. Et non, parfois la boulangère ou le boulanger vous rappelle, mais parfois pas. Et on poche les 2,10 à la place des 1,5 sans rien dire. Et c'est arrivé au café, enfin dans plusieurs. Mais c'était lourd hein, financièrement d'activer.
Vous êtes en train de me dire que vous êtes un artiste maudit.
Non, je suis pas du tout. Non, pas du tout.
C'est une aventure extraordinaire. Alors Glitch.
Alors Glitch, oui.
Qu'est-ce que c'est Glitch?
Alors Glitch, c'est vraiment ce qu'en économie on appellerait, sauf que ça a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, mais j'étais très, comment dire, préoccupé par la question du trop de tout, de la saturation. J'étais très sensible à ça aussi comme artiste, de voir que on voit partout continuellement une pléthore incroyable de production d'objets d'art, d'exposition, de communication sur l'art, etc. Et vraiment, je me suis dit, comment faire pour rester artiste, mais sans finalement entrer dans ce régime de saturation extrême de la production, de la communication sur la production, etc. Et de ce fait, j'ai créé Glitch, qui est un mot qui existe, qui veut dire c'est quand il y a une erreur comme ça informatique, etc. Je m'y suis intéressé dans le registre de la réalité et j'ai commencé à développer des actions sur le retrait, la soustraction. C'est-à-dire qu'on avait une phrase historique célèbre qui était de Douglas Huebler, je ne souhaite rien ajouter à tout qui existe déjà, mais pour moi il fallait faire encore un pas qui était cette fois-ci ne plus se contenter de ne rien ajouter mais en plus retirer, donc aller plus loin en retirant et en tant qu'artiste j'ai commencé à développer des actions disons retirantes soustractives à différents niveaux, donc sur le plan de la médiation, sur le plan de la production d'art. Sur
et là,
le
on retrouve des grands courants philosophiques de toute l'histoire du métier, mais le less is more est une des données de la pensée philosophique de tout temps.
Oui, absolument.
Hein, vraiment, on retrouve des grands courants fondamentaux. Hein.
Tout à fait. Par exemple, dans le Viking, il y a un hexagramme qui s'appelle 41, il s'appelle diminution. J'ai découvert ça il y a... Et diminution, c'est exactement ça. C'est la tendance...
C'est de la divination chinoise, voilà. C'est ça, sur un jeté de pièces ou...
Exactement. Oui. Donc le numéro 41, c'est diminution. Et la diminution, c'est ça, c'est la même idée. C'est cette tendance qui va vers le de moins en moins.
J'ai juste une dernière question, Jean-Baptiste Farkas, à vous poser. Pardon, elle est un peu triviale, mais elle est importante. Comment vivez-vous? Vivez-vous de votre art?
Alors, je vis de mon art et de l'enseignement. Je suis obligé de compléter, en fait, mais j'ai un agent, Guillaume Mollet-Viville, qui travaille avec moi, avec qui on vend aussi des services, mais pas sur un niveau, disons, qui est celui de la foire de Bâle dont on parlait tout à l'heure. C'est plutôt là aussi des rencontres avec des gens qui sont intéressés, qui sont presque plus des contributeurs au développement du projet que de vrais collectionneurs dans le sens classique.
C'est pour ça que
terme.
Je parlais tout à l'heure de la participation, en fait. Il y a vraiment quelque chose là qui est...
Elle existe en
que
argent.
Que vous partagez,
aussi.
Quoi.
Elle existe en argent. Ça veut dire que pour moi, l'artiste ne doit pas être pauvre. Il doit vivre. Ça me semble tout à fait normal que l'artiste vive de ce qu'il fait. Et donc, il faut développer des vrais vraies alternatives qui peuvent être, par exemple, la prestation. C'est-à-dire que si on travaille, on est payé, donc on demande de l'argent pour l'activation d'un service, aussi dément soit-il, aussi fou soit-il, mais aussi on peut enseigner et comment dire, diffuser une pensée auprès de, je sais pas, de jeunes étudiants, mais aussi on peut agir dans le monde du travail, par exemple dans l'entreprise, etc., etc. Donc l'idée, c'est plus peut-être de seulement agir, par exemple, sur le marché de l'art, mais de développer un spectre d'activités qui rapporte de l'argent de façon à chaque fois pertinente. Voilà, ça répond à vos,
ah oui,
à votre question.
Ah oui, non, puis surtout, ça me remplit de bonne humeur. Aurore, un mot ou un autre
Je reviendrai peut-être sur cette histoire de soustraction, puisque oui, vous en avez pas mal parlé. Puis cette idée du trop, de la, oui, saturation, de l'addition. Et alors vous, vous procédez par soustraction, et vraiment, je reviens sur cette idée de subversion que vous, vous avez mise en avant, Stéphane, au tout début. Dans ce sous, alors soustraire, c'est tirer par en dessous.
Oui.
Dans la subversion, c'est l'idée de renverser ce qui est en haut et de le faire passer en,
oui,
haut et bas.
Ça, j'y crois pas, par exemple.
Vous n'y croyez pas, ah, d'accord. Mais justement, cette idée du bas m'intéresse pas mal. Cette, oui, idée de passer par le bas, d'être, c'est, dans le bas.
C'est parfait.
Même à un niveau rablaisien ou shakespearien, bien l'idée, sûr, d'être dans le bas du corps ou d'être dans le bas. Voilà. Bon, c'est chouette, ça. Ça me plaît.
En plus, le bas offre des possibilités extrêmement intéressantes à tous égards.
Je n'en attendais pas moins de vous. Hein.
Alors maintenant, voyons Jason Frinks. Là aussi, c'est Jason Frinks, il y a une photo de lui. Donc, quand on va sur les sites internet, alors on voit un beau gosse, hein, avec une chemise, une cravate, un costume. Il est allongé sur un canapé, sauf que la chemise est totalement sortie du costume. Il porte des chaussures, mais il n'a pas de chaussettes. Et il y a marqué en dessous, Jason Frings, le banquier préféré de ta sœur.
C'est moi, tout à fait.
C'est vous.
Exactement. Je voulais être la banquier la plus sexy du monde. Je ne sais pas si ça a marché parce que je manque l'argent. Justement, en général, les banquiers, ils ont de l'argent. Mais au minimum, j'ai essayé physiquement.
Mais alors, ce qui est très intéressant, restons un peu dans le domaine, après tout, le mot a du sens. Dans le domaine subversif, vous vous êtes directement attaqué à l'argent, à la façon dont on le représente aujourd'hui, quoi.
Oui, en fait, j'ai une banque centrale qui est fait pour l'argent qui n'a pas de chiffre. C'est-à-dire, j'aime bien l'idée de valeur dont tu avais parlé tout à l'heure, en fait, qui n'est pas celle de quantifier des choses, mais plutôt de réfléchir dans la valeur dans ta vie. Parce que souvent, on bosse pour gagner plus d'argent, pour avoir un nouveau objet, comme Jean-Baptiste avait dit, mais c'est pas ça le but de vie pour moi, en fait. Le but de la vie, c'est de profiter de tes copains, de profiter de ta famille, et c'est là où il y a une véritable valeur. Donc pourquoi pas utiliser ça comme un fond de système monétaire au lieu de 10 et plus que 1 et 100 et plus que 10. Et c'est ça, en fait.
Non, mais l'idée formidable, je trouve, c'est que il faut forcément, quand on est sur une grande place financière, il faut un référent pour organiser tout l'espace. Et dans votre proposition, le référent, c'est vous. C'est-à-dire que si vous êtes de bonne humeur, la bourse de Jason Frings, elle est en hausse. Si ce n'est pas le moral...
Oui, il est en baisse. Enfin non, il y a des entreprises négatives aussi. Donc les déprimes, par exemple, j'ai fait une valorisation de mon dépression, de mon état de déprime dans la vie, et il augmente et il descend tous les jours.
Génial, il y a la prime et la déprime.
Il y a la prime et la déprime. Les mots, et vous communiquez d'ailleurs, vous communiquez régulièrement sur Internet, et il y a
tous
des sites. Alors, il y a le Jason X Monthly Market. Qu'est-ce que vous faites là dans le
monthly market statement, c'est que puisque j'ai des investisseurs, comme tous les marchés, je fais un press release de l'état actuel de le marché.
Et c'est vous, le marché, c'est vous.
Et le marché, c'est moi, effectivement.
Comment ça va en ce moment?
J'ai pas trop l'esprit. Donc c'est un peu en baisse. Partie positive du marché, un peu en baisse.
Allons bon.
Ça arrive, hein.
Et ce qui était étonnant, c'est que vous avez vraiment mis en place un système complet, c'est-à-dire que vous avez créé une monnaie.
Oui.
Vous avez créé des cartes de crédit?
Tout à fait, ce n'est pas forcément les mêmes idées de crédit, mais oui.
Ouais. Vous avez créé des distributeurs de billets?
Surtout, en fait, Penn and Armory Show à New York, qui rentre un peu dans le marché quand même, j'ai fait un bar d'échange de monnaie. Donc on est fait avec Antoine Lefebvre à Editions, une édition des billets de banque qui sont fondés sur le relation humain. Et j'ai fait un taux d'intérêt de 1 $ pour un billet de banque, et ça peut être un billet de érotique, de love, de laine superficielle, limité, et de camaraderie dans le sens du travail. Et en fait, $1 pour un billet d'amour. Et en fait, on a fait un truc...
Ils sont très beaux, ces billets. Tout est fait, évidemment. Là, c'est une œuvre vraiment d'artiste. C'est-à-dire, c'est un travail que vous faites à la main. Ce sont des dessins magnifiques. Là, par exemple, j'ai en main le $8, de la haine.
Oui.
C'est terrible. Mais derrière, j'ai le fellowship de Zolar.
Ça représente les relations au travail.
Vous voyez à quel point je suis tordu et déformé. J'ai dit dollar alors que c'est Zolar. Vous avez créé des Zolars.
Oui, effectivement. En France, des gens ont du mal à dire Jason, ils disent Jason, donc j'ai pris le Z et j'ai parti avec. Donc on va retrouver le Z partout dans mon monde financier qui représente moi.
Alors, ce qui était étonnant, c'est que votre, je cite, Zédéral Reserve Bank Garden, c'est quoi la banque centrale au fond, hein?
Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un banque en lieu très austère, qui vraiment pète pas du tout la joie, qui est plutôt un endroit où j'aime pas du tout aller, je me suis dit, moi, ma banque, ce serait dans le jardin, là où on peut faire un bon pique-nique et discuter avec nos familles, etc. Et c'est là où on peut faire les vrais échanges de valeurs qui seraient beaucoup plus à propos de mon idée de ce qui devait être l'argent, au lieu de « Bonjour, monsieur banquier, j'ai gagné combien cette année, est-ce que vous pouvez m'emprunter à tel taux, etc. »
Mais c'est incroyablement bavard, au fond, parce que votre Zédéral Reserve Bank Garden, c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans les jardins publics, beaucoup en France, peut-être aux États-Unis aussi, d'ailleurs, je pense. C'est le kiosque à musique, quoi. C'est le joli petit kiosque où on va regarder jouer le petit orchestre sympa du dimanche. Là, pour vous, c'est le lieu où on va prendre des nouvelles des actions de Jason.
Pour ma banque centrale, oui. Tout à fait, parce que encore nouveau, c'est vraiment l'idée de valeur dans la vie et pas les valeurs de produits bruts d'un pays.
Alors, c'est au fond, c'est la même chose que pour Jean-Baptiste Farkas, c'est que il y a une philosophie dans tout ça. Et vous dites, le plus ne doit pas toujours être meilleur que le moins.
Oui, tout à fait. Mais je crois que j'avais justement écrit ça avec Jean-Baptiste, en fait.
Ah ouais,
donc,
quand
ensemble. Même, on a la même montre, on travaille ensemble.
J'appréciais beaucoup Jean-Baptiste, donc il me semble qu'on avait fait ça ensemble. Parce que justement, on se rejoint sur l'idée de reculer un petit peu avec toute cette production surchargée.
Mais ça veut dire, Isabelle de Maison-Rouge, qu'il y a quand même, il y a deux artistes là qui, chacun de son côté, travaillent à sa propre œuvre et au fond son propre regard sur le monde. Mais il y a maintenant quand même beaucoup de convergences. Dans cette partie invisible de l'iceberg dont vous nous parliez tout à l'heure, est-ce qu'on entend beaucoup ce type de parole et cette envie de changer la règle du jeu?
Cette parole, on l'entend. Après ça, est-ce qu'elle a suffisamment de résonance? Ça, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que c'est bien que de temps en temps, on puisse avoir des expositions. Parce que même si Jean-Baptiste, évidemment, est contre l'exposition, malgré tout, c'est important de rendre quand même visibles ces idées. Parce que sinon, si elles sont simplement dans l'ordre de l'idée et de l'immatériel dont on parlait tout à l'heure, ça devient complexe. Donc, il faut les rendre visibles. Pour les rendre visibles, tout simplement, ça peut être justement de reprendre des codes classiques qui sont pas du tout employés dans l'art, mais dans l'entreprise, par exemple.
Alors, on va y venir. Parce qu'il a créé, Jason, quelque chose qui est très intéressant aussi. Il y a dans le monde capitaliste, on parle quotidiennement des fusions-acquisitions. Oui. Et ben vous aussi, Jason, sauf que vous, c'est des fusions-acquisitions de métiers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que je m'ennuie un jour et j'ai regardé, je me rappelle plus c'était laquelle, je crois que c'était un policier qui bossait et je dis... Comment est-ce que je peux l'interpréter lui, mais mélanger son métier avec un autre métier pour faire quelque chose complètement nouveau et plus adapté au travail quotidien? Et en fait, il me semble que j'avais mélangé le policier et le rockstar. Parce que comme ça, il va se calmer un petit peu et ce serait encore plus drôle. Donc on fait deux milieux qui sont essentiellement opposés et on met ensemble et fait un meilleur modèle de travail.
Et c'est devenu The Police?
Non, ça c'était déjà pris depuis longtemps, je pense. C'était un peu autre chose.
Mais la volonté quand même, elle est aussi très décidément poétique, parce que quand vous créez une société qui a pour titre Corporate Myth, le mythe quoi, hein, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que, à travers l'histoire de l'art, on voit souvent la mythologie et revient quotidiennement depuis les débuts. Donc aujourd'hui, pour moi, la mythologie, elle est créée par les entreprises. Elle est créée par le branding dont tu avais parlé tout à l'heure aussi et dans toute l'économie qui existe autour de nous. Donc au lieu, par exemple, dans l'histoire américaine, de faire des gunslingers, qui étaient des cowboys, les grandes légendes, ils sont obsédés aux États-Unis, ils commençaient tous avec des armes et les cowboys. Ben moi, j'en ai fait des dead slingers. Donc, au lieu de tirer des balles, on tire du dead. Parce qu'effectivement, les Américains, ils aiment beaucoup leur dead aussi. Donc, du coup, c'est vraiment l'idée de réinterpréter les mythologies à une échelle plus contemporaine, qui est très liée, comme tout mon travail, à l'économie.
Vous savez que vous avez en face de vous un très bon tireur. Hein. Est-ce que vous êtes conscient du fait que, quand je disais tout à l'heure, mais sans rire, que les artistes ont une formidable capacité à anticiper les choses. Il n'y a pas si longtemps, dans 3D, on a invité des économistes qui nous expliquaient qu'au fond, l'économie était en train de chercher de nouveaux repères et que le produit intérieur brut n'était pas forcément le meilleur de tous et que le plaisir de vivre, que le bonheur pouvait être une unité de valeur prise en compte par une économie différente. Au fond, vous dites la même chose.
C'est le fond de tout mon travail. Tout à l'heure, quand on avait parlé de Jason X, c'est justement un marché boursier fondé sur ma vie. J'ai pris toutes les expériences et ma santé, et je l'ai rendu en entreprise. Et justement, l'importance de chaque partie de ma vie a un prix d'action qui augmente et descend selon ce qui se passe. Donc du coup, ce n'est pas forcément qu'est-ce qui produit plus des choses, mais c'est qu'est-ce qui est plus important dans mon quotidien. Et c'est là tout le jeu. J'ai renversé l'idée de valeur. Mmh. J'ai pas envie de produire plus de déprimes, par exemple. Je veux que ça soit plus bas. Limite, s'ils partent en faillite, tant mieux.
Il est américain, vous êtes français, Jean-Baptiste Farkas. Il y a une internationale de l'art tangentiel.
Ah oui, on pourrait le dire. Dans chaque pays du monde, on peut trouver des gens qui travaillent un peu de la façon, avec la même approche, bien sûr, parce que beaucoup d'artistes sont un peu usés par le système tel qu'il est. En tout cas, tel qu'il apparaît, tel qu'on le voit.
Bien sûr.
Donc oui, il y a une internationale. Elle n'est pas organisée. Et d'ailleurs, faudrait-il qu'elle le soit ? Peut-être pas.
Ben parce que vous êtes des artistes. Mais en même temps, parallèlement, on voit les mouvements sociaux et politiques. On voit ce qui vient, par exemple, de se passer en Espagne, à oui. Barcelone et ailleurs. On a vu ce qui se passait à New York, au pied de Wall Street. Oui, hein. Oui. Tout ça, au fond, dit un peu différemment de vous, mais un peu la même chose, quand même.
Oui, oui.
Et si on changeait ? C'est pas mal, non ? On va essayer.
Oui.
Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps là ? Je vois qu'on me fait plein de signes. Il nous reste quoi ? Une minute.
C'est bien, la régie est avec nous. Une trente, Stéphane.
Non, parce que je voyais qu'on s'agitait là en régie. Je me disais, mon Dieu, est-ce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti ? Parce que vous savez, on a de la pub, nous aussi, maintenant, y compris dans le service public.
Mais
il va falloir qu'on crée de l'art tangentiel à la radio aussi, vous voyez ?
Oui.
Qu'on casse ce qu'on a fabriqué. Peut-être même les caméras en studio, au fond.
Hein. Peut-être qu'on peut prendre de la pub pour Glitch ou pour IKEA Service.
On va vous faire de la pub, si vous voulez. On vous fait la plage suivante.
Sauf que ceux qui vous ont écouté, qui ont envie de vous connaître, ben, ils font quoi ? Ils vont sur Internet et on tape Jean-Baptiste Farkas,
on trouve.
Et Jason, il communique très régulièrement avec ses cotations sur Internet, des vidéos live. C'est quand la prochaine ?
Ça va être bientôt, je pense dans une semaine.
Il ne sait pas à l'avance.
Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je lance la vidéo. Je trouve la vie pas toujours très intéressante, donc j'attends qu'il y ait vraiment quelque chose à dire avant de crier.
Est-ce que quand se tient un événement comme celui de la Foire de Bâle, vous allez regarder ce qui s'y passe pour pouvoir le démonter de l'intérieur ?
Ah, moi, je regarde, ouais. Ça m'intéresse de démonter de l'intérieur, comme tu dis. Mm-hmm. Ce serait assez drôle. Et ça existe, donc il faut quand même pénétrer pour changer. Je trouve pas que forcément c'est plus facile de changer de l'extérieur.
Bon, si vous avez envie et que vous êtes chez vous de rendre une pièce impraticable en mettant du papier collant partout, vous pouvez revenir à partir de 13h30 et jusqu'à 14h, on vous donnera le mode d'emploi. On fait une petite pause avant le 13h.
3D. Le journal de Stéphane Paoli.
Et pas simplement de bonne humeur, Aurore Vincenti, avec l'envie de poursuivre sur deux, trois choses que nous avons entendues et que vous avez entendues, Aurore.
Oui, c'est cette histoire de métier, de fusion, acquisition de métier que Jason Frings, opère. Ouais.
Moi, je ne suis pas un spécialiste de mots comme Isabelle et Jean-Baptiste, donc comme tu veux.
D'accord. Alors, cette fusion acquisition de métier, c'est la fusion, par exemple, du policier et de la rockstar.
Oui.
Ou la fusion du prêtre et du...
Et un DJ.
DJ. Très ouais. bien. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose dans le langage qui est le mot valise. Vous savez ce que c'est qu'un mot valise ?
Oh, bah, j'en entends tous les jours.
Voilà, donc c'est la création d'un mot à partir de deux mots déjà existants, mais qui généralement ne sont pas associés. Donc, pour prendre un exemple littéraire, moi j'ai pensé à Boris Vian qui crée un pianoctel, le piano qui fait des cocktails. Lewis Carroll en faisait plein des mots-valises, mais en anglais. Une autre forme linguistique qui me fait penser à cette fusion-acquisition de métiers, c'est la métaphore, tout bêtement. Une métaphore, vous prenez deux idées qui, en apparence, n'ont rien à voir. Vous créez une collision entre les deux et vous avez une image nouvelle qui naît à partir de ces deux idées. Voilà, c'est beau ? Métaphore et mot-valise.
Mais c'est tout proche de ce que vous faites, Jean-Baptiste Farkas, au fond, ça. Hein ?
Ah oui, 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 le mélange des genres.
Le mélange des genres et même parfois la collision, en fait, en réalité.
Oui, oui. Il faut peut-être que je donne des exemples
un petit peu. Oui, donnez-nous de ce que vous faites.
Par exemple, donc...
Je vous dis ça parce qu'il y a eu beaucoup de mails pendant l'émission. Oui. Les gens vous ont écouté avec apparemment beaucoup de plaisir, et puis ils ont envie de savoir ce que vous faites.
Oui, oui, que ce soit peut-être un petit peu moins abstrait. Donc, je peux vous donner un service qui s'appelle Ceinture et qui invite le collectionneur à retirer de sa collection toutes les œuvres dans lesquelles il n'aura pas d'implication personnelle. Donc enlever tous les objets d'art, tous les tableaux, toutes les choses comme ça, et ne conserver dans sa collection que les œuvres dans lesquelles il peut avoir une action concrète. Donc il s'agit de protocoles, il s'agit d'œuvres à réaliser, etc. Pour le rendre actif à l'intérieur de sa collection. L'année dernière, j'ai aussi été invité.
Je peux vous interrompre un instant. C'est vraiment intéressant ce que vous dites là parce que je vous écoute et il y a toutes les réminiscences qui reviennent et je pensais à l'art cistercien.
Oui, je le connais pas. Très peu.
Qu'on dépouille, on dépouille, on dépouille pour arriver à l'essence des choses, au sens. Et même à la fonction, si tant est qu'on puisse parler de fonction du religieux, mais certains peuvent y croire, après tout, bien entendu, pour arriver à la fonction.
Ça, c'est... Oui, c'est... Alors oui, revenir vers la racine,
le sens.
En tout cas,
le sens.
Oui, oui, absolument. Ce serait, le sens de l'action, de ce qu'on fait, probablement, autour de cette table.
Mais ça, Isabelle de Maisonrouge, c'est un... Encore une fois, c'est une magnifique nouvelle pour la vitalité de l'art, ça, cette démarche-là.
Bien sûr, d'autant plus que ces démarches-là sont un peu tautologiques aussi, c'est-à-dire qu'elles s'interrogent sur l'art lui-même. C'est-à-dire qu'elles vont pousser un petit peu plus loin les limites du système, puisqu'on parlait justement de cette notion de marché. L'écosystème de l'art, comment ça fonctionne, ces artistes-là le connaissent très bien, puisqu'ils vont essayer de gratter un petit peu tout ça, essayer de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'à quelle profondeur on peut poursuivre cette notion de porosité entre toutes ces frontières. Et oui, c'est une grande vitalité, ça, c'est certain.
Et ce qui est très intéressant, et ce que je trouve à vous écouter les uns et les autres, on l'entend bien, ce qui est magnifique dans la posture de l'artiste, c'est son intention. C'est-à-dire qu'au fond, comment vous regardez le monde dans lequel vous êtes et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire, quoi ? Quelle est votre intention, là, au fond, la direction de votre regard et de votre geste ? Ça, c'est fort.
Je ne sais pas si un artiste peut vraiment changer le monde. Je ne pense pas, en fait. Mais un artiste peut aider aux autres à changer un peu leur vie et réinterpréter ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, du coup, si on peut réinterpréter un peu l'économie, nos buts dans l'économie, nos buts dans nos vies, sous un terme un peu plus de valeur personnelle et non quantifiable, je pense que c'est là où, moi, personnellement, je cherche à aider à progresser.
Alors, il y a une chose, pendant l'émission, il se passe plein de choses, évidemment, et aussi pendant la durée du journal de 13h, où là, on est dans le studio tous ensemble, les invités de l'émission, et puis le public qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Et Camille, je voudrais que tu t'approches de monsieur qui a évoqué un point extrêmement intéressant, je trouve, que nous n'avons pas encore abordé dans l'émission. Vous, Jason, et vous, Jean-Baptiste, vous, Farkas, et Jason Frings, vous êtes dans une démarche qui est... beaucoup celle de l'immatérialité. Hein.
Oui.
Mais après tout, on peut être un artiste aujourd'hui, avoir envie, comme vous, de s'exprimer en dehors du champ de l'art. Mais monsieur, je vous laisse poser, votre réflexion était très très intéressante. D'abord, bienvenue à vous.
Bonjour.
Elle était très intéressante, votre réflexion.
Je me présente pour commencer ou
comme vous voulez.
D'ailleurs, ça fait partie de la question, ça permet de poser un contexte. Donc, Jean-Baptiste Calestru, je suis artiste. J'ai, pour vous donner un seul repère qui correspond à notre sujet, en 2008, fait une exposition à la Galerie Kamel Mennour, au mois d'octobre, l'œuvre présentée était constituée de 3 900 pièces d'euros, pièces de centimes, d'euros, 50 centimes, 20 centimes, etc., découpées en forme d'étoiles à la scie à métaux. Donc c'était à la fois glamour, sympathique, et aussi ça pouvait parler de quelque chose un peu, de la destruction de la monnaie fiduciaire. Déjà, c'est quelque chose
qui est
encore interdit. Enfin, la question se posait. Voilà. Ma question est donc la question aussi. Depuis, moi, j'ai cherché à sortir un tout petit peu du réseau d'art contemporain, du surf sur les résidences, de sortir un peu de ma place, ma posture de caniche de l'art contemporain qui doit en permanence faire pas mal de résidences et donc d'être voilà, toujours très, très connecté. J'apprécie vraiment la position que je découvre chez Jean-Baptiste et Jason. Pour moi, que je relis à la, au courant, enfin disons, à la pensée du Champienne. Voilà.
Du Champienne Marcel Duchamp. Hein.
Oui.
Voilà.
Oui, tout simplement. Donc, et depuis, je me pose la question. En fait, j'ai essayé de sortir un petit peu de ce réseau, chose qui est très facile. Il n'y a pas de problème de sortir de ce réseau. Je pense qu'il n'est pas très difficile de rentrer non plus, parce que je pense que le réseau, en fait, de l'art contemporain, c'est un réseau qui. On n'a pas besoin d'avoir envie d'y aller, en fait. Il est toujours là. Il existera toujours. Il y aura toujours des gens intéressés par l'art. Voilà. Donc. Par contre, pour un artiste, on n'a pas besoin d'être « in » toute sa vie, ou être « out », etc. Par contre, trouver une position, c'est intéressant. Donc, bon, moi, ma question, ça a été depuis 5 ans maintenant, ça a été de savoir, de faire de la peinture à l'huile sur toile, en plus dans les formats très standards, enfin classiques. Donc, je pense que je fais vraiment de la peinture classique quelque part, donc c'est les monochromes. Ben, la question, en fait, c'est l'idée de la nouveauté. Parce qu'on on a commencé par l'idée des prix mirobolants dans l'art contemporain. Donc, il y a quelques mois, on a eu Marianne Lamour, La rue est vers l'art, son film qui parlait justement de Baal. Enfin, voilà, il y a eu Forteresse dans l'art, de l'art, enfin, sur Arte, plein de documentaires là-dessus. Ma question,
donc
c'est.
La est-ce question, que... allez-y, là.
Oui.
On est.
Oui, la question.
La question, j'en peux plus, c'est.
La question,
c'est. Wow, ça monte.
Il y a du suspense, ouais. La question, c'est est-ce que c'est vraiment nouveau, en fin de compte hein, est-ce que ce qu'on voit comme nouveau aujourd'hui dans l'art contemporain, donc ces prix mirobolants, etc., sont aussi nouveaux que ça quand on compare Jeff Koons, donc Jeff Koons, à Jean-Dominique Ingres, merci, Jean-Dominique Ingres, et j'apprécie les deux, hein, je veux dire, ouais. Voilà. Formellement, vous pouvez trouver des liens hein, entre la manière de produire des œuvres. Voilà, enfin, pour aller un peu plus loin dans la question, est-ce que, par exemple, la sculpture qu'on connaît, Place de la Concorde, qui décore la Place de la Concorde, avec donc des dieux grecs qui sortent de l'eau avec des dauphins et tout doré, voilà. Est-ce qu'on sait qui c'est, par exemple, ce personnage-là ? On n'a pas le nom du personnage. Voilà. Donc, en fait, ce que je me dis, c'est qu'à toute époque, il y a eu vraiment des gens mis en avant par le système de l'époque en question, d'autres qui n'ont pas été. Et je me pose vraiment la question de cette nouveauté, en fait. J'ai l'impression
non, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous disiez pendant
non, mais vous êtes rendu compte de rien, Stéphane. C'était du rapt, du lotage de micro, là, ce qui nous a fait, c'était une performance.
Mais c'est intéressant. C'est une performance. Mais c'est intéressant d'entendre aussi des interrogations de cette nature. Et au fond, ce que vous disiez pendant qu'on discutait pendant le journal, on prend une toile aujourd'hui et de la peinture à l'huile. Et on fait le geste que tout peintre fait depuis l'Antiquité. Et est-ce qu'on peut, utilisant cet outil-là, cette forme-là, se mettre comme vous l'êtes l'un et l'autre, en rupture avec un système ? Voilà, c'est aussi ça. Il n'y a pas simplement la dématérialisation, le concept, l'art minimal, l'abstraction absolue, etc. Mais la volonté de rompre avec un système, comme vous le dites formidablement l'un et l'autre, en utilisant ce qui a toujours été utilisé, par exemple, par le peintre.
Qui répond, non.
Moi, je voudrais peut-être revenir sur la notion de nouveauté. Effectivement, ça n'a rien de nouveau. Il y a toujours eu des artistes qui se sont mis en travers du système. On pense par exemple à Courbet. Courbet est vraiment le grand provocateur. C'est lui qui a organisé les premières expositions payantes pour venir voir ses œuvres qui n'étaient pas acceptées au salon.
Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore ou ne s'en souviendraient pas, Courbet, entre autres choses, c'est ce tableau sublimissime du sexe divorce de cette femme, non mais sans blague, qui a été perçue au moment de sa première présentation comme un événement invraisemblable. Quoi.
Après ça, il faut remettre ça dans un contexte, parce que c'était vraiment un contexte qui était très privé au départ.
Bien sûr.
C'était vraiment une commande qui lui avait été passée et qui ne devait pas sortir de l'espace de l'appartement du commanditaire.
Puis et que Lacan a caché pendant des années derrière une tenture chez lui, parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie.
Exactement.
Ce qui en dit long sur Lacan aussi, d'ailleurs, au passage.
Ou alors qui voulait qu'on le voie, mais dans certaines conditions et de certaines façons. Oui. Mais pour revenir à Courbet, effectivement, c'est quelqu'un qui a énormément bouleversé les règles de l'art. Par exemple, il s'était rendu compte que quand il peignait des chevreuils dans la forêt, ça avait beaucoup de succès. Donc il en a produit, mais en quantité, pour pouvoir vendre et gagner de l'argent, pour pouvoir produire des œuvres qui, elles, n'étaient absolument pas vendables. Et puis, il avait des mécènes qui le soutenaient. Il avait aussi d'autres personnes qui étaient autour de lui et il les appelait mes actionnaires. Donc c'est intéressant de ramener ça à un mot qui a lieu dans l'économie habituellement. Donc on voit qu'il y a déjà des tas d'artistes qui effectivement se sont toujours mis en marge. Et tout à l'heure, vous parliez d'artistes dont on a complètement oublié le nom. Par exemple, si vous allez au musée d'Orsay, vous allez immédiatement voir les œuvres de Manet, de Courbet justement, que j'ai cité. Et en revanche, des œuvres de Bouguereau, de Cabanel, de Jérôme, on a oublié leurs noms, leurs œuvres ne nous paraissent pas du tout intéressantes à l'heure actuelle. Or, c'était les stars de l'époque. C'était les artistes qui faisaient beaucoup de commandes, qui gagnaient énormément d'argent avec leur œuvre. Donc, l'œuvre n'est pas restée. En revanche, celles qui étaient en marge, les Manet, Courbet, même les impressionnistes, eux, maintenant, on court les voir, alors qu'ils mouraient plus ou moins de faim à l'époque. Donc, c'est cette antinomie art et argent, ça, c'est pas du tout nouveau.
Mais dans un travail auquel vous avez d'ailleurs vous-même collaboré, à propos de ce que vous venez de dire, Jacques Derrida, le philosophe Jacques Derrida, parle des cycles de l'art et d'artistes qui sont en pointe à un moment donné d'une époque, qui disparaissent totalement, peut-être d'ailleurs pour réapparaître plus tard, qui sait.
Oui,
mais on est vraiment dans une espèce de mouvement pendulaire avec des hauts et des bas, un peu comme les courbes de Jason.
Exactement.
Bah, c'est un marché, fin de compte. Hein.
Voilà.
Da Vinci aujourd'hui, c'est le maître du monde, mais il est disparu pendant une bonne centaine d'années après son mort, non ? Il me semble. Imagine si Da Vinci peut disparaître, on peut tous disparaître, il n'y a pas de problème.
Mais par rapport, Jean-Baptiste Farkas, à la question engagée par monsieur tout à l'heure sur, au fond, comment se positionner en rupture, vous, ce qui vous caractérise, et Jason et vous-même, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, c'est la dématérialisation, c'est l'immatérialité, c'est vous départir de l'objet.
Oui.
C'est une nécessité aujourd'hui, ça, ou pas ?
C'est-à-dire, c'est beaucoup plus rapide. Déjà, ça ne demande pas de moyens. Ça, c'est très important. C'est un peu comme la caméra vidéo pour le cinéma. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'avoir un matériel. Les sculpteurs d'il y a 150 ans avaient besoin d'ateliers, de fours. Nous, on n'a besoin de rien. On n'a que besoin de réfléchir et de mettre en pratique des idées pertinentes. Donc, c'est fabuleux. C'est le paradis. Après, l'immatérialité, la dématérialisation n'est pas que positive, on le voit dans la société. Enfin, il y a toujours de la production d'objets ailleurs. C'est ce qu'on voit dans l'immatérialité n'est pas forcément toujours positif. Nous, on l'emploie, je pense, simplement parce que c'est très pratique. C'est rapide, pratique, puissant, pertinent.
Est-ce qu'il faut craindre, Isabelle de Maisonrouge, on a affaire à deux artistes jeunes, talentueux, vraiment talentueux, intelligent, qui porte sur le monde dans lequel ils vivent un regard exigeant, vraiment, ça va intéresser les gens, ça. Ça va intéresser les galeristes. Ça va intéresser le marché.
Oh, moi, je trouve que ça n'intéresse pas plus que ça, les galeristes. Et alors, tout à l'heure, le monsieur Leva, il a dit que c'est facile.
Mais vous avez l'air de le regretter, Jason. Non.
Oh, ça m'embête un peu. C'est bon. Combien de fois est-ce qu'au temps, non, on ne s'intéresse pas à toi avant que tout d'un coup, tu deviens frustré et énervé. Moi, je trouve les galeristes et le monde des galeries, ce n'est pas du tout un milieu ouvert aujourd'hui. C'est très fermé. C'est vraiment le milieu fermé de tout, en fait. Ils sont bloqués dans une idée, qu'est-ce que je peux vendre pour faire de l'argent ? Il y a très peu des galeries qui sont vraiment intéressées à faire l'art et faire progresser le monde de l'art.
Bien
et
sûr.
À la fin de journée, c'est un business.
Mais est-ce qu'il faut craindre quand même, Isabelle de Maisonrouge, à un moment donné, une récupération ? On est quand même dans un système économique qui finit par tout récupérer, tout. tout, partout, ouais. tout le temps, tout marchandisé. Et pourquoi pas les eux-mêmes, et ouais. donc les menacer finalement.
On en parlait à l'instant avec Jean-Baptiste, et je lui disais, si tu mettais tes services à 10 000 euros, qu'est-ce que ça donnerait ? Parce qu'effectivement, des services qui ne sont pas très chers, on peut se dire, je vais tenter une expérience, c'est amusant. Bon. Mais si tous ces services étaient minimum 10 000 euros, est-ce que tout d'un coup, au contraire, on ne verrait pas avec ce que je disais tout à l'heure en préambule, le snob effect, tout d'un coup des grands collectionneurs
oh, comme
qui
c'est
se
bien.
Rueraient
oh, comme
pour...
c'est cher comme c'est bien.
Voilà.
Oui.
Voilà. Ouais. Donc, et Jean-Baptiste, mais je pense que tu vas pouvoir le dire aussi, disait qu'effectivement, le risque se trouvait peut-être là aussi, c'est qu'on peut avoir une posture extrêmement radicale et critiquer le marché de l'art à partir du moment où on commence à gagner soi-même beaucoup d'argent
c'est
avec le marché de l'art.
Survient, la véritable épreuve voilà. survient. C'est, on parle souvent des artistes qui se mettent hors du marché de l'art, mais qui ne marchent pas dans le milieu de l'art. Il faudrait voir maintenant des artistes à qui on fait des propositions très importantes, comment ils résistent au fond. Si on leur dit « fais-moi la même chose en plus grand, en doré, en plus attrayant », est-ce qu'ils résistent à ça ?
Ce que pratiquent beaucoup de collectionneurs.
Peut-être que...
Non mais ça c'est vraiment très intéressant parce que c'est, oui. c'est la tentation au désert,
voilà.
que vous nous racontez.
Oui,
là.
Oui. Oui. Peut-être oui. qu'autour
dans
de
la
cette...
solitude de l'atelier, qu'est-ce qu'on décide ?
Le mieux, mais après ça se gâte dans la relation avec... dans les relations commerciales avec les galeristes. Et, mmh. et je pense qu'autour de cette table, on pense beaucoup à l'artiste, comment dire, qui est hors du marché, qui se met volontairement hors du marché, etc. Mais la question, c'est qu'il faut en connaître ses raisons. Et beaucoup d'artistes sont contre le marché parce qu'ils ne sont pas dedans. Et il faut voir comment
ah
les
oui.
artistes... Oui, il y a peut-être... Enfin, ça serait un point de vue critique sur...
Bien sûr.
Peut-être l'approche, mais c'est de... Il y a des tentations et je pense que les artistes vraiment forts sont ceux qui réussissent à garder vraiment le cap, justement quand des tentations surviennent, parce que sinon c'est trop facile. Je veux dire, être en dehors, on l'est presque par défaut.
Mais c'est ce que disait Jason à l'instant, c'est que vous êtes même, pour certains d'entre vous, placés en dehors, parce que les galeries considèrent que pour l'instant, vous n'êtes pas dans le coup. Quoi.
Mais par contre, il peut y avoir la volonté de se placer en dehors, et ça c'est très différent.
Bien
c'est là où on est vraiment dans justement une intention dont vous parliez tout à l'heure.
Mais c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui.
Oui.
et non, parce que ça fait toute la différence. Ça fait évidemment oui. toute la différence.
Oui. Mais peut-être ça revient aussi à ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est que l'artiste devrait être rémunéré pour ce qu'il fait. Et dans ce cas-là, ça élimine la question de la spéculation qu'il y a sur l'objet en question. Si on sait que ça vaut tant le service qu'il va réaliser, bon ben on va pas spéculer dessus. Et il y a une grande dérive à l'heure actuelle, qui n'est pas nouvelle non plus, que par exemple quand on invite un artiste dans un centre d'art pour une exposition, tout le monde est payé dans l'exposition. Sauf l'artiste. L'artiste n'est jamais payé. Et pourtant, le commissaire de l'exposition, la personne qui vend les billets, la personne qui fait la communication, enfin tout le monde reçoit un salaire. Et l'artiste, on lui dit, mais non, tu as déjà une énorme chance d'être invité à exposer. Donc
non,
alors là,
vrai.
Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ensuite, peut-être éventuellement, on a aidé à produire des œuvres. Et donc, il va pouvoir garder les œuvres et éventuellement les vendre. Sauf que c'est très biaisé, parce que les œuvres, généralement, elles sont produites pour un lieu précisément, ouais. et elles ne seront jamais vendables. Donc l'artiste perd tout, sauf qu'on lui dit « tu gagnes énormément en notoriété ». Donc si on pouvait réussir, il y a beaucoup d'artistes qui militent là-dessus en ce moment, il y a des groupes sur les réseaux sociaux qui se sont constitués, qui réfléchissent sur une économie solidaire des artistes. Et donc ça revient à ce que disait aussi Jean-Baptiste, c'est que s'il y a des collectionneurs qui disent « moi je veux bien cette œuvre-là, mais il me la faudrait en plus grand parce que chez moi il y a quand même de la place, j'aimerais que ce soit clinquant, qu'on puisse la repérer », et les artistes disent « bon d'accord, je vais vous la faire en plus grand, il n'y a pas de problème, le prix sera un peu plus élevé aussi ». Non, Si les artistes refusent en disant non, l'œuvre elle est là,
oui,
c'est
voilà.
celle-ci, puis c'est tout. Et c'est la même chose dans un centre d'art. Si l'artiste dit ben, vous me payez combien ? Ben non, on ne vous paye pas parce que vous avez déjà de la chance. Ben, il dit ben, tant pis, alors moi je n'expose pas. Mais c'est évident qu'ensuite on va trouver un autre artiste qui va accepter. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est là où il est important effectivement que les artistes soient très vigilants et soient très forts de ce point de vue-là.
Je vous écoute avec attention et je me dis c'est drôle, c'est un peu comme ça aussi à la radio avec les jeunes journalistes
c'est
quand on
l'emploie oui.
en CDD en disant t'as bien de la chance d'être déjà à l'antenne.
C'est pas du tout pareil.
Une question ? Je vous en prie.
Bonjour, je suis
administratrice peut-être ?
Admiratrice des artistes. Que je pensais les artistes ce sont des gens qui recherchent qui trouve, qui découvre le sens dans la vie, de le mettre en conscience pour les gens qui se réveillent. Alors, c'est pour ça qu'il faut plus d'artistes. Plus on a d'artistes, plus le monde sera meilleur. Et que... j'ai oublié.
Non, mais c'est, vous dites une chose qui est importante et qu'il faut défendre. En effet, la place de l'artiste dans la société, elle est... On le disait ensemble tout à l'heure, elle est politique, mais dans le beau sens du mot politique, pas de cette politique politicienne qui casse les pieds à tout le monde, mais l'enjeu politique du partage et de l'accès à la connaissance, à la culture et à la question du sens. Non, la question, madame, qui peut peut-être prolonger ce que vous nous disiez, c'est que vous avez parlé de mondialisation, Isabelle de Maison-Rouge, et de globalisation. Et j'ai toujours peur, quand on dit mondialisation et globalisation, qu'on dise en même temps normalisation.
Et oui, bien sûr, la crainte se situe là. Et on le voit toujours par rapport à ce rapport au marché. Là, récemment, par exemple, j'intervenais dans une école de commerce. Donc, on leur parlait du marché, mais aussi du fait que, il y a quelque temps, on parlait pas d'artistes chinois. Et puis maintenant, ils ont pris une immense ampleur sur le marché de l'art, mais ce sont les Occidentaux qui sont venus les chercher. Et puis, quand la Chine a pris conscience qu'ils avaient des artistes et que ça pouvait être formidable aussi sur le plan économique, eh bien, ils ont essayé d'adapter cela. Donc c'est ça, c'est cette notion d'instrumentalisation ou de transformation ou d'adaptation qui fait qu'on va essayer de produire un art qui se vend. Et c'est...
Il est terrible le verbe que vous venez d'utiliser. Produire.
Oui. Bon, c'est un peu ça. Après, quand on regarde des grands musées partout dans le monde, on voit la même expo partout. C'est limite comme un groupe de musique qui tourne et tu vas voir le concert à New York, le même expo à Paris, le même expo à Berlin, le même expo à Tokyo. Et en
c'est
fait,
l'industrie culturelle.
C'est vraiment et les mêmes juste. C'est tout le même en fait. Donc c'est déjà un peu normalisé. Ça existe déjà.
C'est terrible, non? Ça vous fout pas en honte,
oui,
tout ça?
Oui. Mais c'est le combat de l'artiste aujourd'hui, hein, s'il y a combat, parce que combat c'est un mot un peu ridicule, mais s'il y a, disons, une prise de position aujourd'hui, elle va en grande partie contre l'industrie culturelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans des formats qui sont complètement déments et qui imposent aux artistes d'agir de certaines façons, qui les contraignent. Mais pour répondre à madame, moi je vous dirais, méfiez-vous des artistes davantage.
Moi, je suis d'accord avec Jean-Baptiste.
Surtout quand il vous demande de condamner une pièce de l'appartement avec du papier collant.
Vous êtes trop optimiste.
Ouais, mais vraiment.
Aurore, il y a quelque chose qui vous...
J'ai une méchante question.
Ah ouais, j'adore. Oui.
Une question méchante, donc. Vous rejetez, Jean-Baptiste Farkas, l'exposition dans les galeries. Qu'est-ce que vous faites de l'exposition dans ce studio de radio?
Oui, on peut le dire. Ce que j'appelle, moi, alors il faut du coup préciser ce que j'entends par exposition. J'entends exposition d'objets d'art. Voilà. Exposition dans le sens général, le fait de s'exposer, de communiquer sur quelque chose, de montrer quelque chose pour faire comprendre quelque chose. Non, je suis tout à fait d'accord, je suis pour.
D'accord.
Après, c'est le format exposition d'objets d'art qui me... Disons que c'est pas que je l'exclus, mais j'essaie de faire en sorte de toujours le contourner. De ne jamais faire d'exposition d'objets d'art dans une... Voilà.
Madame. Bienvenue à vous d'abord.
Merci. C'est peut-être plus une remarque qu'une question sur la valeur de la prestation intellectuelle, où on a l'impression que ce soit dans l'art ou globalement dans plein d'autres métiers, qu'on ne sait pas reconnaître, conceptualiser et valoriser une prestation intellectuelle en dehors d'un produit codifié dans lequel on aboutirait. On n'arrive pas à réfléchir cette notion-là et à vivre de ça correctement, en fait.
Ça aussi, c'est une question intéressante, parce que c'est en effet cette dématérialisation rend l'appréciation
difficile,
complexe.
Délicate, oui, absolument.
Et alors, comment on peut tenter de répondre à un enjeu de cette nature, Isabelle de Maison-Rouge? Et aussi Jean-Baptiste Farkas, bien sûr, et Jason, dites-nous un peu votre grille de lecture de ça.
Ce qui me semble le plus évident, c'est de regarder ce qui existe déjà et essayer de rendre mieux. Et c'était évidemment la musique. C'est déjà quelque chose immatériel qui existe depuis des années et des années. On ne vend plus d'albums, on vend en MP3, on a un certain modèle qui est en train d'apparaître avec du streaming, etc., qui est en train de justement vendre un art immatériel. Donc c'est un peu à découvrir encore, on n'est pas encore trouvé le modèle, mais ce serait de faire un modèle de vendre l'art immatériel à la grande masse pour 3 euros la pièce ou 4 euros la pièce, au lieu de justement 400 000 euros la pièce qui représente une toute petite minorité du monde qui peut l'acheter. Et c'est là où je pense que ça doit jouer. Je sais qu'il y a des boîtes de vidéos, enfin des marques de vidéos, des labels de vidéos, peut-être c'est la meilleure façon de dire, qui existent à New York, qui essaient de vendre des vidéos autant qu'on vendrait une chanson. Donc tu peux acheter les vidéos à 2 euros. Et c'est quand même un bon tentative d'essayer de vendre quelque chose immatériel à une échelle plus grande, de rendre les choses plus accessibles.
Et est-ce que, pour prolonger aussi la question que posait à l'instant Aurore Jean-Baptiste Farkas, est-ce que l'exposition au sens du dire, comme vous le faites aujourd'hui, n'est pas un moyen de donner à ceux qui vous écoutent une appréciation possible de ce que vous proposez, de ce que vous faites ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, en tout cas, moi je le dirais, je le prendrais sous l'angle de la rencontre. Lorsqu'il y a une rencontre, il se passe vraiment quelque chose qui, pour moi, relèverait de l'expérience artistique. Mmh. Par rapport à ce que disait donc cette personne, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas vraiment comment analyser, en tout cas, ce genre d'approche. Et du coup, se rabattent souvent sur l'objet d'art ou la valeur, disons, connue. Et il faudrait donc travailler, donc comme Jason le fait, par exemple, maintenant, sur ces nouvelles formes de valeurs qui ne passent plus au travers d'objets d'art, mais par des choses beaucoup plus subtiles en définitive, mais encore difficiles à... Donc proposons des alternatives et penchons-nous sur celles-ci, à la place de critiquer le marché de l'art, peut-être qui nous fait perdre du temps.
Oui, parce que, à vous écouter, l'artiste apparaît, je trouve, Isabelle de Maisonrouge, comme un élément de régulation, c'est-à-dire une grille de lecture dans un monde qui est de plus en plus complexe. Mmh. Les sociologues parlent de la complexité du monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire quand tout bouge en même temps, quelle est la grille de lecture ? Les artistes ont cette capacité à discerner encore ou l'indicible ou l'invisible. Mmh. Et au fond, la place de l'artiste, en rupture avec l'industrie de la culture, mais n'est-elle pas de nous éclairer, comme vous l'avez fait par exemple aujourd'hui ? Comme ça, vous savez, comme avec une lampe torche, hop, tiens, on va aller plutôt aller de ce côté-là ou plutôt de ce côté-là. Ça, c'est je trouve, une belle mission pour l'artiste.
Oui, on utilise beaucoup de métaphores, justement, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Quand on parle de l'artiste, et souvent, on utilise la métaphore du phare. Le phare qui éclaire, justement, qui est là pour donner des points de repère dans la nuit, dans la mer. Et je pense que le phare est une belle image pour l'artiste. C'est très juste. Je pense qu'aussi, l'artiste, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de notre époque. C'est un peu un sismologue. Il écoute, il peut même annoncer qu'un volcan va éclater quelque part. Et oui, il donne des points de repère. Après ça, encore faut-il qu'on l'écoute, qu'on le suive.
En tout cas, on a eu la chance d'avoir deux très très beaux phares avec nous aujourd'hui. Paula Jacques est en ligne. Bonjour Paula.
Bonjour mon cher Stéphane.
Quel est le programme de Cosmopolitaine aujourd'hui?
Alors ce que je peux
Paula
vous dire, des artistes au placement sûr, hein, et très peu coûteux finalement. Et puis une émission entièrement déclinée au féminin, sauf Laurent Bourdon, mais bon, ouais. Personne n'est parfait, avec deux grandes artistes, l'une de la littérature, Elisa Granville pour son roman Gretel and the d'arc et puis un formidable film brésilien d'Anna Müller.
Merci Paula et à tout de suite juste après le flash de Dominique Delaroy. Un tout petit mot pour vous dire que 3D sera la semaine prochaine à Villejuif, à l'Institut Gustave Roussy, où se mène une bataille très importante contre le mélanome. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être la chance de partir bientôt en vacances et de se mettre au soleil. Alors faut pas vous gâcher les vacances, mais il faut savoir que le soleil, il y a un usage particulier à en faire et que les domaines de la recherche, notamment pour ce qui se passe à Gustave Roussy, sont passionnants. Les progrès très importants. On essaiera de vous en parler dimanche prochain.